Bonjour frères et sœurs, c'est toujours une immense joie de nous retrouver chaque dimanche pour célébrer notre Dieu, notre Père, celui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans son admirable lumière. Je vous propose pour le message de ce matin, j'allais dire tout un chapitre, mais bon, on n'aura pas le temps de tout parcourir, mais quelques versets au début du chapitre 7, dans le deuxième livre des rois. Deux rois, chapitre 7, nous allons lire les versets 1 et 2. En tout cas, je vous encourage à parcourir après tout ce chapitre 7 de Deux Rois. C'est un chapitre rempli de beaucoup d'enseignements. D'ailleurs, les spécialistes appellent ce chapitre 7 de Deux Rois l'Évangile. L'Évangile dans l'Ancien Testament. Deux Rois, chapitre 7. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous l'avons entendu tout au long de la première partie de ce culte, que tu es pour nous un Père et que nous sommes tes enfants. Tu nous as adoptés à travers l'œuvre que ton Fils Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes bénéficiaires de cette œuvre de la croix. C'est parce que la grâce de Jésus nous a trouvés. Et c'est cette grâce qui nous a levés ce matin et qui nous place ici en ce lieu pour écouter ta parole. Alors nous prions que cette grâce continue à nous accompagner tout au long de ce culte. Que la grâce de Dieu dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Que la grâce de Dieu ouvre notre entendement spirituel, les oreilles de notre cœur. Nous voulons recevoir ta parole telle qu'elle est, la parole de Dieu. Parle-nous, Seigneur, ainsi qu'à nos enfants aussi, que tes paroles nous fassent du bien, nous transforment, nous encouragent, nous fortifient dans notre foi. Nous en avons tellement besoin. Bénis notre écoute de ta parole, bénis chacun d'entre nous, et que toute la gloire te soit rendue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Donc, Deux Rois, chapitre 7, prenons tout simplement les versets 1 et 2. Lisons au nom du Seigneur. Alors, je vous invite, j'ai vu qu'il y en a qui étaient déjà debout. Je vous invite à vous lever, c'est une manière d'honorer la parole de Dieu. En réalité, c'est une manière d'honorer Jésus-Christ lui-même, qui est la parole qui a été faite chair. Deux Rois, chapitre 7, versets 1 et 2. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel fera les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous demande de s'asseoir. Merci. Donc je disais que ce chapitre 7 de Deux Rois peut s'intituler l'Évangile dans l'Ancien Testament. Ce qui fait que, à travers ce message, nous allons découvrir l'Évangile qui est contenu dans l'Ancien Testament. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes lecture, en tout cas de la parole de Dieu, lecture de la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible est dans la Bible. Si vous prenez une partie de la Bible, et elle contient les autres parties de la Bible, et ainsi de suite, de sorte que c'est comme ça que ça se passe, en tout cas dans la Bible. Et vous allez vous rendre compte que les autres parties de la Bible sont aussi dans celles que vous étudiez. La Bible explique la Bible. Et c'est ce que nous enseigne en tout cas ce chapitre 7. La Bible nous présente le fait. La Bible nous présente le fait qu'Élie, non pas Élisée dont on a évoqué, mais Élie qui est le maître d'Élisée, que le prophète Élie est, vous voyez, la Bible dit la figure de Jean-Baptiste. La figure de Jean-Baptiste. Alors je parle d'Élie parce que je vais parler d'Élisée, mais je commence par Élie, que la Bible nous présente comme étant la figure de Jean-Baptiste. Et la Bible nous enseigne aussi que Élisée, dont il est question dans ce passage, symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Il est le type, le symbole de Christ. Et nous voyons dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce que Élisée a fait tout au long de son ministère. Vous savez que Élisée est celui qui a accompli dans la Bible ce qu'on appelle, donc Jésus évidemment, ce qu'on appelle les miracles de salut. Les miracles de salut. Je vous invite à parcourir ce livre de Deux Rois, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, et vous allez vous en rendre compte. Dans un des récits, il y avait du poison dans la soupe. Élisée règle le problème avec un tout petit peu de farine. Mettez un peu de farine dans la soupe. Il sauve des personnes à chaque fois. Il y a eu aussi, vous vous souvenez de cette histoire, de cette femme, justement, dont les deux fils allaient être pris comme esclaves. Et le miracle d'huile. Élisée sauve cette femme et ses enfants. Il y a aussi à Dothan, vous voyez, l'armée syrienne qui s'approchait. Le Seigneur aveugle cette armée à travers la prière d'Élisée. Il sauve ainsi tout le pays. Allez, tous ces miracles sont en réalité des miracles de salut. Nous connaissons Élie, dont j'ai évoqué tout à l'heure, pour ce miracle extraordinaire au mont Carmel. Il a invoqué le Dieu du ciel qui a descendu le feu. Le feu est descendu devant les prophètes de Baal. Ceci pour montrer que seul l'Éternel est Dieu. Élie, je disais, est une préfiguration de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible nous l'enseigne, est venu pour dire aux gens d'arrêter. D'arrêter avec tout ce qui est système, d'arrêter avec tout ce qui est religion, parce que le vrai Dieu est celui de nos pères. Celui qui nous a dit qu'il ne fallait point voler, qu'il ne fallait point mentir. Et c'est ce Dieu qui nous a dit qu'en réalité le péché était le problème. Ce ne sont pas les rituels qui importent devant Dieu. C'est le fait de se repentir de ses péchés. Voilà ce qui importe devant Dieu, et de venir à Dieu humblement. Voici ce que Jean-Baptiste est venu dire au peuple d'Israël de la part de Dieu. Renonçant au système et à la religion. Élie, de son côté, avait dit aussi de renoncer au faux Dieu, au Dieu de Baal, au faux prophète. Oui, revenez à Dieu. Vous voyez, c'est la même chose que Jean-Baptiste a fait. Il a été prophétisé que Jean-Baptiste viendrait avec la puissance d'Élie. Et on peut bien faire le lien entre Élie et Jean-Baptiste. Ils ont eu le même rôle. Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus. Élie a préparé le chemin d'Élisée. Oui, Élisée, je disais, joue le rôle du Seigneur. Nous le voyons donc à travers ces images qui sont à chaque fois des images, ces miracles qui sont à chaque fois des miracles de salut où les personnes sont comme perdues et il vient et ces personnes retrouvent la vie. Il fallait que Jean-Baptiste aussi vienne avec le cadeau du salut. Frères et sœurs, ceci nous donne un premier enseignement que dans notre façon d'évangéliser, dans notre façon de travailler, bon, le Seigneur, nous devons toujours nous souvenir de cela et dire le problème avant de proposer la solution. Quel est le problème? Et nous le savons tous. que c'est le péché. Nous ne pouvons pas parler du salut sans soulever le problème du péché avant. Lorsque nous avons le temps, bien entendu, nous devons exposer le problème du péché et proposer la solution. La solution qui est évidemment Jésus. Jésus qui est le sauveur et qui est venu pour donner la vie. C'est ce qui s'est passé à travers le couple Jean-Baptiste et Jésus, et c'est ce qui s'est aussi passé à travers le couple Élie et Jean-Baptiste. Et vous allez remarquer dans votre lecture de la parole de Dieu aussi qu'il y a en l'occurrence trois grands points communs entre les deux hommes. Concernant le savoir immense de ces deux hommes, je parle de Élisée et je parle de Jésus, le savoir immense de ces deux hommes, la protection divine que ces deux hommes ont eue tout au long de leur ministère, et les prophètes qui les ont précédés. Au sujet de ce savoir immense, Élisée, dont il est question, vous voyez, quand vous lisez en tout cas son ministère, c'est quelqu'un, un prophète qui semblait tout savoir, à une exception près. Il confesse ne pas connaître le besoin de la Tsunamite. 2 Rois chapitre 4 verset 27 dit « Car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché. » Il ne le savait pas. « Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. » 2 Rois chapitre 4 verset 27. Jésus de même sait tout à une exception près. Il admet lui-même ignorer le jour de son avènement. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne, dit-il, ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu chapitre 24, verset 36. Concernant la protection divine, Jésus, comme Élisée, passe, vous voyez, à travers la foule qui veut l'arrêter. Nous avons dans Luc chapitre 4, verset 28 à 30, et pour Élisée, nous avons ce récit dans 2 Rois chapitre 6, verset 18 à 20. Les Syriens sont frappés d'aveuglement. Jésus, comme Élisée, parle d'une armée céleste prête à prendre sa défense. D'un côté, plus de 12 légions d'anges, dit Jésus dans Matthieu 26, verset 53, prêtes à prendre position pour lui. Et de l'autre côté, une montagne pleine de chevaux et de chars de feu, prêtes à intervenir en faveur d'Élisée. 2 Rois, chapitre 6, verset 16 à 17. Concernant les prophètes, les précurseurs, le lien entre Élie, précurseur d'Élisée, et Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, vous voyez que ce lien est vraiment étroit. C'est lui, Jean-Baptiste, qui est Élie, nous dit qu'il devait venir, dans Matthieu 11, verset 14. Chaque précurseur est suivi par un successeur plus puissant, plus puissant. Et la passation, d'ailleurs, des pouvoirs, s'il faut le dire ainsi, se déroule à un seul endroit. Où s'est déroulée la passation de pouvoir entre Jean-Baptiste et Jésus? Ça s'est déroulé dans le Jourdain. Oui. Le Jourdain juste après son baptême. Et où s'est déroulée la passation de service aussi, le pouvoir entre Élie et Élisée aussi dans le Jourdain. Oui, frères et sœurs, je vous invite, comme j'ai dit, à approfondir le sujet et vous verrez que Élisée a eu un ministère centré sur le Christ. On parle d'un ministère christocentrique depuis l'Ancien Testament, centré sur le Christ. Élisée est un prophète qui enseigne. Il utilise l'image et le symbole. Mais pour comprendre toute la portée de son message, il faut se rappeler qu'une des caractéristiques d'Élisée est de voir dans l'avenir. Élisée est le prophète du futur. Ainsi, il peut prédire l'arrivée de la pluie, la dévastation des territoires de l'ennemi, ainsi de suite. Oui, frères et sœurs, il a eu un ministère christocentrique, centré sur le Christ. Alors, nous allons donc, à partir de ce verset 1 et 2 de 2 Rois 7, parler de l'Évangile dans l'Ancien Testament, comme je viens de le dire, mais je vous rappelle un peu le contexte. Vous savez que Samarie, à cette époque, souffrait d'une grande famine, car l'ennemi avait assiégé cette ville. Vous savez que le siège d'une ville fait partie de ce qu'on appelle les méthodes de guerre, les tactiques de guerre. On assiège une ville en empêchant tout ce qui est entré et tout ce qui est sorti. La ville ne peut plus être approvisionnée en nourriture. On entend, d'ailleurs dans ce récit un peu, que les enfants, que les habitants, on attend que les habitants soient suffisamment affamés afin qu'ils se rendent. Parce que la ville est assise, afin qu'ils se rendent. Et il y a une telle famine que les habitants commencent à manger, en tout cas ce qu'on appelle les fientes, l'oiseau commence à manger les têtes d'âne, alors que l'âne était considéré comme un animal impur. Mais devant la famine, que peut-on faire? C'est pour dire combien la solution était dramatique. Ils ont même mangé leurs enfants. Alors nous pouvons supposer qu'ils étaient déjà morts. Élisée était dans ce contexte-là. C'est pourquoi le roi disait au chapitre 6, « Je vais le tuer. » C'est lui qui est la source, l'origine de nos malheurs. « Je vais le tuer. » Le roi étant en colère contre Dieu, puisque Élisée représentait Dieu. Où est Dieu? Où est Dieu dans tout ce que nous vivons? Où est Dieu? Quand le roi vient avec son officier, Élisée prophétise. Élisée prophétise. Un prophète extraordinaire. Une mesure représente 12 kilos. Et deux mesures, donc 24 kilos d'orge. Mais pour presque rien. C'est trop. Trop pour l'officier qui répond, même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, mais c'est trop grand pour que cela soit possible. Comment la situation peut-elle se renverser en 24 heures? En 24 heures, comment? D'où viendrait alors cette abondance? Bien-aimé dans le Seigneur, que répond Élisée à cela? Tu le verras tout simplement de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est la même chose, frères et sœurs, qui se produit quand nous annonçons l'Évangile encore aujourd'hui. Mais c'est la même chose qui se produit. Pour bien des personnes, voyez, nous sommes simples d'esprit, voyez, pour croire à la Bible et à ses promesses et à toutes ses histoires. Jésus mort à la croix pour nos péchés. Il nous garde une place au ciel, il est allé pour nous préparer les places et on viendra nous chercher. Vous voyez que tout paraît être une histoire d'enfant, comme on dit un conte de Noël. Quoi, voyez. Les gens trouvent que cela est trop beau pour être vrai. Et ceci dans leur orgueil, beaucoup, beaucoup se manquent, car ils ne sont pas suffisamment simples pour recevoir le message du Seigneur. Nous devons comprendre que si cela est arrivé à Élisée, cela nous arrivera aussi. Ne soyons pas choqués, car cela refroidit beaucoup de personnes dans une démarche même d'évangélisation. Devant la moquerie, certains ont fini par se taire. Non, nous devons le faire aussi pour nous-mêmes. Prêcher la parole, évangéliser. Nous devons apporter l'Évangile aussi pour nous-mêmes. Si nous n'apportons pas l'Évangile, frères et sœurs, nous nous tuons, je vous assure. Nous nous tuons nous-mêmes, spirituellement parlant. Même si les personnes n'écoutent pas, ne nous écoutent pas, continuons à annoncer cette bonne nouvelle, ne serait-ce que pour nous-mêmes. C'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs. Continuer pour garder la foi. Car si je ne le fais pas, ma foi va mourir, mais c'est important, bien aimé. Si Élisée n'avait pas donné une telle prophétie, mais il était conscient que sa foi mourrait. Dieu te parle clairement, c'est tellement grand que nous pouvons résister à dire une telle prophétie. demander au Seigneur, est-ce que je ne me suis pas trompé? Mais Élisée était habitué justement à entendre la voix de Dieu. Élisée savait que s'il ne parlait pas maintenant, en tout cas sa propre foi, on serait affecté. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un vrai juste, mis à part, ne supporte pas, en tout cas, de perdre la foi. La foi est vraiment, comme on dit, la respiration, on peut le dire aussi, la nourriture d'un enfant de Dieu, de celui qui est consacré au Seigneur. Il peut faire manquer de tout, mais garder sa foi. Il dit non, je dis la foi. Je prends le risque, oui, s'il faut prendre le risque. Frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes parfois comme démunis, nous les chrétiens. Surtout, en tout cas, ceux qui veulent faire des choses dans la vérité, comme nous dit la parole de Dieu. Si nous ne continuons pas l'œuvre de Dieu, nous allons perdre. Nous allons perdre même ce que nous avons. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la meilleure façon de garder ce que nous avons, c'est de l'engager. C'est de l'engager. C'est en engageant ce que Dieu nous a donné que nous serons capables de gagner et peut-être même encore de fructifier ce que Dieu nous a donné. La parabole des talents est là dans la Bible pour nous enseigner aussi à ce sujet. Si nous ne continuons pas l'œuvre de Dieu, nous allons perdre même ce que nous avons. Que personne ne nous trompe. La foi se maintient en agissant. En agissant, non pas en restant assis, non pas en restant inactif. Nous devons agir. Élisée a prophétisé. La foi se maintient en parlant. La foi se maintient en disant les choses et non pas en les taisant. Même si nous n'avons pas la capacité d'accomplir les choses. De toute façon, ce n'est pas nous qui avons parlé, c'est Dieu qui a parlé. Nous ne sommes que des porte-paroles. Nous devons dire ce que Dieu nous a confié. Élisée a parlé au nom de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Nous savons que la Bible est la parole de Dieu. C'est le « ainsi dit l'Éternel ». Si tu crois, tu seras sauvé. Nous devons annoncer ce message aux gens. Nous avons encore un détail qui nous dit dans ce chapitre 7 que l'Évangile est dans l'Ancien Testament. Je fais la lecture des versets 3 à 5. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux. On parle bien de quatre lépreux. Qui se disent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à rentrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Personne. Bien-aimés, le but de tout ce que nous faisons est la pratique. Le but de la vie chrétienne, c'est de pratiquer, c'est d'expérimenter ce qui se trouve dans la Bible. Ce n'est pas les théories, mais c'est de vivre au quotidien, d'expérimenter. Et c'est ça le but de tout ce que nous faisons. Et non pas de vouloir devenir fort intellectuellement parce que j'ai emmagasiné toute la Bible. Non, le but c'est de vivre la parole de Dieu. Les lépreux sont à l'extérieur de la ville. Ils ont raisonné. Allons dans le camp des Syriens. Allons-y. Les chances de survie sont là-bas, dans le camp des Syriens. Plutôt que de vivre dans l'inaction. Un peu comme on dit, plutôt que de vivre dans la salle d'attente. Comme les chrétiens engraissés qui sont dans la salle d'attente en attendant que Jésus les enlève. Dans leur attitude, ces lépreux refusent d'attendre ainsi la mort. Bien aimé, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. C'est certain, nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Vous voyez, il ne reste plus qu'une possibilité. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, ben, nous vivrons. S'ils ne nous tuent pas par l'épée, au moins les déchets, peut-être dans les poubelles, nous maintiendront en vie. Nous pourrons manger les restes et vivre. Dans le camp syrien se trouvait la mort rapide par l'épée, mais là aussi se trouvait la possibilité de vivre. Ils décident donc d'aller dans le camp des Syriens, de prendre le risque. Bien aimé, ceci est un enseignement pour nous. Un jour, bientôt, très bientôt, un jour nous mourrons. En tout cas, je parle. Maintenant, imagine que tu arrives au ciel et la seule chose que tu as à dire au Seigneur, merci Seigneur de m'avoir sauvé, j'ai attendu ce jour pour venir vers toi. Alors que l'apôtre Paul nous dit ceci, que si un seul est mort pour tous, tous, nous devons donc mourir pour lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous évidemment, tous donc sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Si Jésus est mort, et que par sa mort, il nous a donné la vie, alors nos vies doivent servir pour sa cause, uniquement pour sa cause. Tu arrives au ciel et tu dis merci de m'avoir sauvé. Mais vu les difficultés qu'il y avait dans le monde, je craignais de trop m'impliquer. J'ai préféré donc garder ma foi chez moi avec mes enfants, en attendant que tu viennes nous chercher. Le monde était trop pourri. C'est ce que tu vas dire à celui qui t'a donné la vie. À mon avis, c'est une honte. Pour nous les chrétiens, nous devons aller même là où il y a des difficultés. Si nous avons cette ferme conviction, sauver les païens. Il y a le risque, oui, de mourir aussi. Que l'on ne se moque pas de nous, que l'on nous injurie, pardon, que l'on se moque de nous, que l'on nous injurie. Oui, il y a aussi toutes ces possibilités-là, mais ce n'est pas une possibilité aléatoire, mais c'est vraiment une possibilité certaine, car Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Allez, allez, et faites de toutes les nations les disciples. Et il ajoute, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est une promesse certaine, sortie de Dieu. C'est ainsi dit l'Éternel. Si vous allez prêcher la bonne nouvelle, les miracles vous accompagneront. C'est la protection divine. Il a dit, je suis avec vous. Je marche devant vous. Bien-aimés, allons-nous rater tout cela parce que nous aurons peur? Nous aurions peur du monde. Nous avons peur et attendons que la mort nous attrape, peut-être par la fatigue. Non, bien-aimés, je vous dis que je préfère la mort sur le champ de bataille. Au moins, ma mort aura un sens, la mort des serviteurs de Dieu, que la mort m'attrape dans l'engraissement. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que cet enseignement nous montre, frères et sœurs? Vous savez, notre gloire, notre... Jésus l'a dit d'ailleurs dans Jean 17, cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, notre gloire se trouve où Dieu nous a envoyés en mission. C'est là que se trouve notre gloire. Et non pas là où nous sommes assis, aussi confortables. Mais notre gloire se trouve là où Dieu nous a envoyé en mission. Et chacun de nous est missionnaire quelque part. C'est là que se trouve notre richesse. Il nous a dit, allez, c'est là que se trouve notre vraie richesse. Vous voyez, c'est le point où on dit, nous prenons le risque, le risque. Les chrétiens doivent prendre le risque. Nous avons chacun un rôle à jouer. Et nous devons participer à l'œuvre du Seigneur. Venir seulement à l'église, écouter la parole et soigner peut-être notre maison. Non, nous devons avoir un rôle. Et n'écoutons pas l'ennemi, n'écoutons pas le diable qui nous dit que dehors il y a le danger, qui nous dit que dehors il y a un lion. Non, c'est un menteur l'ennemi. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la maison du Seigneur, à attendre l'enlèvement sans rien faire, mais En réalité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu seras finalement enlevé, car tu risques justement de perdre la foi en restant inactif, sans rien faire. Cela n'est pas garanti. Autant travailler, autant fructifier ce que le Seigneur t'a donné. Nous sommes sûrs ainsi de garder la foi. Et nous sommes sûrs que la gloire de Dieu est au rendez-vous. Jésus, dans Jean 17, le dit. Il sait qu'il va traverser la croix. Il n'y est pas encore, mais il peut considérer la croix comme chose faite. Donne-moi la gloire que j'ai, parce que j'ai tout accompli. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Oui, frères et sœurs, l'expression au verset 9 qui dit « Cette journée est une journée de bonne nouvelle. » Voyez, et nous savons tous que le mot évangile veut dire « bonne nouvelle ». C'est pourquoi nous disons que 2 Rois 7 est contenu, qu'au chapitre 7 de 2 Rois est contenu l'évangile. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Mais que se passe-t-il? Ils arrivent dans le camp des Syriens et il n'y a personne, personne. L'Éternel des armées, un autre nom de Dieu. Dieu a ce qu'on appelle des grandes armées qui ont fait entendre leur bruit. Mais ce n'est seulement que le bruit, l'armée de l'Éternel n'est même pas intervenue. Ce n'est plus seulement qu'un bruit. À Dothan, l'épisode qui précède donc au chapitre 6, le serviteur d'Élisée les avait vus avec des chars qui remplissaient la montagne. Élisée avait prié, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Cette fois-ci, elles n'étaient pas visibles, mais elles ont fait tout simplement entendre leur bruit. Rien que le bruit de cette armée. Au psaume 46, il est dit que Dieu fait cesser les combats. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Il a brisé l'épée et anéanti les chars de guerre, car il est lui-même l'Éternel des armées. Ce bruit était tellement impressionnant que ces gens ont fui. Le fait qui est curieux, et qui va siéger la ville. Ils entendent le bruit quand les gens de Samarie n'entendent rien du tout. Eux seuls entendent le bruit. Il est en train de faire un grand coup, notre Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons marcher par la foi. La Bible le dit. Cela devrait être un grand bruit, puisqu'ils ont pensé que c'était des armées qui se rassemblaient. Ils ont fui. Seuls les ennemis ont entendu le bruit. Il y a des choses que nos adversaires entendent que nous ne nous entendons même pas. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, nous encourage à marcher par la foi. Nous pouvons croire que rien ne se passe alors que Dieu est en train de frapper. Mais de frapper un grand coup. Il faut croire en Dieu. Il faut compter sur Dieu, frères et sœurs. Au verset 9, ils se disent l'un à l'autre, mais nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Oui, pensons aux autres. Ils se disent, comment pouvons-nous avoir de tels gestes et garder cela pour nous? Beaucoup de chrétiens ont saisi Jésus. Beaucoup de chrétiens ont cru en Jésus. Ou plus exactement, beaucoup de chrétiens ont cru, mais n'ont pas saisi Jésus. Ils ne se rendent pas compte de la richesse qu'ils ont en Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas forcer une personne à évangéliser. Nous devons plutôt parler de Jésus parce que beaucoup ont cru officiellement en Jésus, officiellement je dis, mais sans réaliser qui est réellement Jésus. C'est pourquoi, même aux chrétiens d'ailleurs, nous devons parler du Seigneur. Pas qu'aux païens. Si une personne réalise qui est vraiment le Seigneur Jésus, que cette personne réalise ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie, je vous assure qu'il va devenir peut-être comme Élisée, aussi bavard, et parler de cela partout, partout. Que l'occasion soit favorable au nom de l'apôtre Paul. Et même sans parler, cela doit ressortir dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être. Est-ce que tu as vraiment réalisé qui est Jésus? Est-ce que nous avons vraiment réalisé? Si tu sais qui est Jésus, si tu sais quelle richesse il a, combien il est grand, combien je peux même dire qu'il est beau, qu'il est sauveur et Seigneur, qu'il peut te guérir, combien, comment peux-tu te taire? Je crois que beaucoup n'ont pas réalisé qui est le Seigneur. Il est très important, bien aimé, de parler de Jésus. Mais c'est vraiment très important. Il y a trop peu de prédications centrées sur le Christ et beaucoup de prédications secondaires, comme j'appelle ça. Mais l'apôtre Paul nous dit, je n'ai voulu savoir autre chose que Christ, que le Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Quand une personne sait qui est Jésus, elle commence à parler. Elle manifeste Jésus dans sa vie. Elle est contente, elle est heureuse aussi. Elle ne peut pas le cacher. Mais nous voyons aussi deux fois les chrétiens avec les mêmes mines tristes que les païens. Mais la vie que Jésus nous donne, quelles que soient les péripéties de la vie, c'est une vie joyeuse. Oui. Comment savoir que Jésus fait des grandes choses dans nos vies? Bien-aimés, est-ce que tout le monde est conscient que Jésus est la bonne nouvelle? Je pense que nous devrions reparler de Jésus. Nous devons reparler de Jésus d'abord à nous-mêmes. Nous devons nous prêcher à nous-mêmes la parole de Dieu. Nous devons nous prêcher à nous-mêmes qui est Jésus. Parce que lorsque nous nous prêchons à nous-mêmes, la parole descend mieux dans notre cœur que quelqu'un. Personne ne peut mieux me parler que moi-même. Oui, nous devons nous prêcher à nous-mêmes. Si chacun se rendait compte qui est le Seigneur, en tout cas, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Jean chapitre 4, verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, en tout cas, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et tu lui aurais donné, et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé, tout est lié à cela. Et souvenons-nous d'ailleurs aussi du centenier romain au chapitre 7 de l'évangile de Luc. Il a dit, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Parlons de Jésus. Il dit, dis seulement un mot, dis seulement une parole. Il avait réalisé qui était Jésus et quelle est la puissance qui l'accompagne. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé notre Seigneur, prions que vraiment la connaissance de Jésus soit claire au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu. C'est ce qui doit être notre souci majeur, car ce que nous disons ici est vraiment l'Évangile. Une grâce à profusion, mais que je gagne pour moi, pour mes projets, non. La grâce de Dieu, frères et sœurs, doit être répandue partout. C'est l'épreuve. Ne sont plus dans la famille. Ils mangent, ils sont bien, et la famille est à l'extérieur. C'est la même chose en réalité pour les enfants de Dieu. Il y a la famille spirituelle dans ce monde. Les personnes qui n'ont pas Jésus connaissent la famille. Mais nous, nous ne sommes plus dans la famille, puisque nous avons le Seigneur Jésus qui est, dit la Bible, le pain de vie, ce pain qui est descendu du ciel. Maintenant, il nous faut rester dans ce texte, dans son contexte, dans cet enseignement. Voici la bonne nouvelle. Nous pouvons même remarquer autre chose, frères et sœurs, nous l'avons évoqué, qu'il y a quatre lépreux, mais quatre, comme les quatre évangiles, justement, qui nous apportent la bonne nouvelle dans ce texte du chapitre 7. En tout cas, nous voyons vraiment l'évangile dans l'Ancien Testament. Il est bien dit qu'il y a une bonne nouvelle. Bien-aimé, ce récit nous enseigne que, autre enseignement, que la rançon de l'incrédulité c'est la mort, pour le serviteur du roi. L'incrédulité conduit à la mort. Alors qu'à l'inverse, la foi conduit à la vie. Il est écrit d'ailleurs que le juste vivra par la foi. Ici, l'incrédulité a conduit à la mort. Bien aimé, l'incrédulité est de contester la parole de Dieu. L'incrédulité conduira à la mort. Beaucoup de personnes pensent que l'incrédulité est neutre. Non, elle n'est pas neutre. L'incrédulité est une contestation. C'est de l'orgueil en réalité. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Oui, bien aimé, que Dieu nous préserve de l'incrédulité. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné la foi, non pas pour que nous puissions la garder, mais pour que nous puissions nous en servir en toutes circonstances. Pratiquer la foi. Et la foi est ce qui nous pousse justement à l'action. La foi ne peut pas nous amener à nous cantonner dans l'inaction, à rester dans notre confort, mais la foi doit forcément nous pousser à l'action. Parce que l'obéissance de la foi nous pousse à l'action. Seigneur, merci pour l'Évangile. L'Évangile que tu nous ordonnes de prêcher partout dans le monde. Mais nous voulons tout d'abord que nos vies soient des Bibles ouvertes. Avant même de parler, qu'à travers nos vies, à travers notre manière d'être, que les gens découvrent que Dieu habite en nous et que les gens découvrent que Dieu est vrai. Que Dieu n'est pas un mythe, que Dieu n'est pas une théorie, mais Dieu est une réalité. Et c'est ce que la Bible nous dit, que Christ en nous, l'espérance de la gloire, il habite nos vies. Et il doit être visible. Nous devons rendre Christ visible à travers nos vies, que le Saint-Esprit nous aide dans cette démarche. Bénis-nous et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen.
Amen.